À l'écoute de l'Italie, une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord-Isère.
Animée par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.
Bonjour, bonsoir Serge.
Bonsoir.
Et puis Laurent, bien sûr. Laurent, pleine forme, bien sûr.
Toujours.
Toujours. Bien, alors, on va commencer cette deuxième émission de la saison par l'actualité en Italie. Alors aujourd'hui, on a choisi trois villes qui ont été, disons, on en a entendu parler pour trois raisons
différentes.
Au moment
des élections.
Un peu après, mais c'est vrai que le passage... le changement de majorité a aussi bouleversé pas mal de choses dans les villes en question. Voilà, alors la première, il s'agit de la ville de Turin. Alors cet été, alors l'été, c'est vrai qu'on entend des informations en pointillé, quelquefois c'est pas plus mal d'ailleurs, hein. Mais le maire de Turin, qui est une jeune femme, qui a été récemment élue, donc Chiara Appendino, qui a 31 ans, hein, comme beaucoup de femmes... et des femmes de ce mouvement Cinque Stelle, a annoncé qu'elle allait faire une des grandes priorités de son mandat électoral, ce serait de généraliser l'alimentation végétarienne à Turin.
Ah oui.
Alors, elle a expliqué tout ça, bon, on en a reparlé encore après les vacances. Donc, qu'est-ce qu'elle voudrait faire? Elle voudrait, pour le bien-être, dit-elle, de l'environnement, de la santé des individus et le bien-être des animaux, elle voudrait mettre en place des programmes éducatifs sur les bienfaits de l'alimentation végétarienne. Alors, adopter ce type d'alimentation sans viande, et si on va encore plus loin, sans produits laitiers.
Ah oui, ça va jusque-là. Oui.
Ça peut effectivement créer quelques partisans, sûrement, et puis aussi quelques oppositions. Alors, surtout qu'on est dans le Piémont. Piémont, oui. Qui est relativement connu pour sa gastronomie.
Qui est variée.
Et qui a aussi beaucoup de producteurs de viande, beaucoup d'éleveurs. Alors, il y a une levée de bouclier, évidemment, hein, et la personne qui, pour la mairie de Turin, est conciliatrice en matière d'environnement, qui s'appelle Stefania Giannuzzi, est elle-même végétarienne depuis 20 ans, et elle, pour calmer un peu les esprits, elle a dit non, mais on ne tient pas à s'en prendre aux producteurs, on veut surtout pas fermer les petits magasins, ruiner les gens qui ont travaillé pendant des années sur l'héritage gastronomique et vinicole du Piémont, mais on veut, toujours avec cet argument de la santé, et faire évoluer les mentalités et convaincre les administrés de manger moins de viande qui peut être nuisible pour la santé. Alors c'est vrai que l'excès de viande peut être nuisible pour la santé.
C'est quelque chose qui vient sur le devant de la scène comme ça
Non, dans le...
Ou bien alors c'est un travail dans les écoles, comme on le rencontre
souvent.
Ah non,
mais c'est
au-delà.
Elle veut au départ mettre... des programmes éducatifs. Alors éducatifs, ça peut s'adresser aux scolaires, aux adultes, mais aussi bien sûr en milieu scolaire. Alors dans les réactions, les producteurs ont mal réagi, et les consommateurs quelquefois. Et puis ce qui était intéressant quand même d'avoir, c'était ce qui était intéressant d'avoir, c'est la réaction de Slow Food.
Oui, j'y pensais.
Que
oui.
Tu connais très bien. Pour y être allé souvent. Puis tu dois être rentré là-bas en plus.
Oui.
Donc Slow Food.
C'est journaliste à Slow Food.
Voilà. Slow Food. Alors, il y a une réaction d'ailleurs qui est parue dans plusieurs journaux, dont Télérama. Le président de la fondation Slow Food pour la biodiversité, Piero Sardo, lui dit faire de Turin une ville végétarienne Bon, c'est avant tout une boutade ou un élément de communication. Alors, il dit que par contre, soulever un tel débat peut être intéressant parce que Slow Food, tout en soutenant les producteurs, et quand même, on va dire, pour la réduction d'une consommation de viande, même si le principe de Slow Food, c'est surtout de développer les produits locaux, sains, voilà, et de proximité. Hein.
Mais oui. C'est curieux, Slow Food aide en même temps des légumes, enfin, des vieux légumes qui le remettent, qui ont un intérêt. Il remet au goût du jour des processus de fabrication, mais aussi des viandes.
Bien sûr.
Mais ça, il traite les trois, mais c'est sûr qu'il y a, je pense, beaucoup plus de légumes mis en avant que de viande.
Alors,
donc c'est une façon qu'elle a peut-être de rentrer dedans, quoi.
Parce
ça peut se faire en douceur, quoi.
Oui, alors il a une phrase qui résume un peu tout la position, en tous les cas, de Slow Food est clair avec ce qu'il dit. Il dit on ne peut pas décider par une loi ou un décret de limiter la consommation de viande. Il faut faire de l'éducation, sensibiliser le public aux problèmes écologiques que cela représente, au-delà de la question de la souffrance animale. Bon, ce qui est évidemment l'un des combats de Slow Food, c'est de dire que l'élevage est une des catastrophes de l'agriculture mondiale. Enfin, l'élevage tel qu'il est souvent conçu.
Oui, c'est vrai.
Et c'est vrai. Et donc, il est bon d'ouvrir le débat, même si en Italie, les organisations paysannes répète qu'il faut consommer de la viande au nom de la transition et pour pas pénaliser les éleveurs.
Il faut rappeler que Slow Food, parmi les trois grands salons qu'il organise, il y a le salon du goût, il y a du végétal et de l'animal.
En ce moment,
il y a aussi cheese,
fromage,
du fromage, donc c'est pas végétal. Et puis il y a aussi Terramad,
c'est différent parce
général,
que c'est plus mondial.
Mais, il y a un salon sur les poissons, sur la pêche à Gênes. Donc
voilà, mais Slow Food évidemment n'est pas.
Mais c'est vrai, quand on applique, quand on regarde les principes de Slow Food, bien qu'ils écartent pas la viande, ça conduit quand même plutôt au végétal.
Voilà, tout en n'étant pas opposé à la viande et tout en n'étant pas tout végétarien. Disons qu'il trouve, ce qu'il trouve intéressant là-dedans, c'est surtout le fait de soulever le débat, quoi. C'est plus que d'imposer quoi que ce soit.
Oui.
Alors, la deuxième ville dont on a parlé, et puis les Français s'y sont d'autant plus intéressés que Paris est candidat à l'organisation des Jeux Olympiques 2024. Alors, madame le maire de Rome, Virginia Raggi, qui elle est un tout petit peu plus âgée, elle a soit 37 ans.
Ah oui, c'est pas la même génération.
Donc, elle est avocate. Elle avait eu 67% des voix à Rome pour les élections municipales. Bon, j'allais dire qu'elle n'a pas eu trop de mal à avoir des voix parce que les deux maires précédents, issus de deux mouvements politiques différents, ont tous les deux eu des problèmes avec la
casserole,
sachant quand même que celle du dernier était quand même pas de la même dimension que Alemann au sud avant. Bref, peu importe. Alors, elle a été élue, elle, et elle, on peut dire qu'elle est fidèle à ce qu'elle avait dit en campagne, puisque elle avait déjà dit que si elle était élue maire de Rome, elle ne soutiendrait pas la candidature de Rome pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2024.
T'as bien raison.
Alors, elle part du principe que la ville est en hyper déficit, 13 milliards d'euros, que organiser des Jeux Olympiques, ça augmenterait encore ce montant. Alors, elle est fidèle à ce qu'elle a dit. Alors, le seul petit problème, quand même, c'est qu'elle devait avoir... Elle a fait son annonce en milieu de semaine. Et le jour d'avant, elle devait rencontrer le président du Comité national olympique italien, qui est Giuseppe Malago. Mais elle ne s'est pas présentée au rendez-vous. Ça, c'est pas bien.
C'est pas bien.
Elle aurait pu y aller. Alors, lui a été, disons, légèrement agacé. Et surtout qu'il avait répété à qui voulait l'entendre, est peut-être important d'ailleurs, que cela ne coûterait pas un centime aux Romains. Enfin, on a l'habitude.
C'est
de ça,
à chaque fois.
Que le budget était de 5,3 milliards, mais qui serait à la charge du comité olympique, à la charge des sponsors et à la charge de l'État italien. On peut en accepter l'augure. Hein. Alors évidemment, la position de Madame le maire a suscité cette réaction agacée du président du comité olympique, mais elle a suscité aussi d'autres réactions dans la population, parce que on dit que peut-être en opposant pas la candidature et peut-être une chance de réussite, elle se prive d'investissement, de rénovation d'infrastructures, de tout ce qui peut être le côté parfois positif d'une telle organisation. Et puis on dit aussi que en fait elle est dirigée par la tête du mouvement et qu'elle n'est qu'une exécutante. Alors il faut dire aussi que sa déclaration arrive après plusieurs problèmes depuis son élection, qui est quand même récente, parce qu'elle a quand même eu des débuts assez difficiles. Son chef de cabinet a été renvoyé parce que il a touché un petit argent de poche. Il avait 200 000 euros par an. Donc certains ont trouvé que c'était quand même pas mal. Bon, comparé à certains milieux, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est déjà effectivement important. Il y a eu aussi la démission de l'adjoint aux finances, son remplaçant, même punition. Avec des soupçons de corruption. Et puis l'adjointe à l'environnement, Paola Muraro, elle tient bon, mais on dit qu'elle pourrait être elle aussi inquiétée par la justice. Alors,
les élections, c'était au printemps.
C'était fin du printemps, oui, c'était juste avant l'été.
C'est passé
en fait.
Tout ça en quelques mois.
Oui, l'été surtout, hein, l'été. Ah, il y a eu beaucoup. Alors que l'urgence de Rome, ça reste le transport, et puis le problème de la propreté de la ville l'entreprise de ramassage des ordures n'arrive pas à solutionner, non peut-être pas pour des incapacités techniques, mais il y a sans doute d'autres raisons. Et voilà, alors ça reste un des gros problèmes de Rome. Et la personne qui est à la mairie, adjointe à l'environnement, faisait partie aussi de cette entreprise en question. Donc tout ça est un peu soupçonneux. Lui rend un petit peu les débuts particulièrement difficiles. Après, la troisième ville dont on a parlé, là, d'une façon beaucoup plus positive, c'est... même si ne pas organiser les Jeux Olympiques, pour certains, ça peut être positif. Milan. Alors, Milan, qui vient d'être désignée première ville européenne en matière de recyclage de déchets. Donc, la ville... ça fait plusieurs années que la ville est considérée au top de ce classement européen, au coude à coude avec Vienne d'ailleurs, pour ce classement des villes européennes qui œuvrent pour le recyclage des déchets. Alors, bizarrement, l'Italie à ce niveau-là est assez curieuse parce que il y a l'exemple dont on parlait de Rome et de quelques villes auxquelles on pense, oui, à Naples et autres, mais là, ce sont souvent plus des problèmes politiques, mafieux, voire mafieux. Et à côté, il y a par contre des beaux exemples, il en est un, et parfois même de toutes petites communes qui ont des initiatives très intéressantes au niveau du recyclage des déchets, et qui font que l'Italie, parfois par ses communes, est un peu prise comme modèle, alors que en général, la France et l'Italie sont considérées à la remorque de la Suède, de la Suisse, de l'Allemagne, qui ont une réputation d'être beaucoup plus à cheval là-dessus. Hein. Et il y a presque 20 ans, il y a un petit village de Toscane qui s'appelle Capannori, où il y avait eu une décision un projet donc de construction d'un incinérateur. Et à l'époque, il y a un instituteur qui s'appelle Rossano Ercolini qui avait dit « Mais pourquoi un incinérateur ? Il vaut mieux réfléchir, puisque l'incinérateur, évidemment, c'est une alternative à la décharge, mais il va avoir des impacts sur l'environnement aussi, sanitaire. Donc pourquoi ne pas réfléchir à une voie de démarche zéro déchet ?»
Il y a 20 ans, c'est bien.
Il y a 20 ans, en 97. Et 10 ans plus tard, cette commune est devenue la première ville européenne à adopter officiellement une démarche zéro déchet. Donc c'est intéressant. Et si on regarde la carte de l'Italie, bon, les bons élèves sont plutôt en Vénétie, dans le Frioul, le Trentin, au Tadige. On va jusqu'aux Marches. Le sud commence plus lentement, progresse. Par contre, très étonnamment, une région comme la Vallée d'Aoste, qui est à deux pas de chez nous, francophone, est plutôt loin derrière. Ah, ouais. C'est ce qui est curieux, surtout pour la montagne, parce qu'en général, le monde de la montagne est plutôt performant dans ces domaines. Voilà. Voilà un peu pour l'actualité de ces derniers mois. Alors, on va écouter une chanson relative à l'écologie. C'est Il posto delle fragole par Grazia De Marchi, qui regrette le temps où la plupart des champs avaient des cultures, notamment des fraises, et qu'à la place on a installé de façon sauvage des bâtiments. Voilà.
Ou des serres,
oui.
Il posto delle fragole come un dipinto, così stupendo da sembrare finto. Il posto delle fragole come un disegno, con i contorni di un vecchio sogno. Nel posto delle fragole mio nonno andava e con mia nonna si addormentava. Nel posto delle fragole ci andava zia, che non si addormentava per cortesia. Nel posto delle fragole ci andai con uno che aveva il viso dolce e il colorito bruno. Nel posto delle fragole ci andai con due, di chi erano le mani se non eran sue. Nel posto delle fragole la luce fioca, mi procurò una volta la pelle d'oca. Nel posto delle fragole un pomeriggio, vidi un ragazzo, ne vidi il peggio. Nel posto delle fragole trovai un tipo, ottimo amante, pessimo amico. Nel posto delle fragole lasciai un uomo, che per vendetta non lo perdono. Nel posto delle fragole vidi una stella e riconobbi il volto di mia sorella. Nel posto delle fragole una notte intera sentì sbocciare la primavera. Nel posto delle fragole una mattina mi risvegliai che ero una bambina. Nel posto delle fragole vidi un'aurora ed un tramonto che vedo ancora. Al posto delle fragole c'è una trivella, un caterpillar e un capannone. Al posto delle fragole il metallo brilla su di una ruspa inglese d'importazione. Al posto delle fragole c'è un orso azzurro che guarda fisso da un cartellone. Al posto delle fragole c'è un fil di ferro che è messo tutto intorno come recinzione. Al posto delle fragole una superstrada attraversa una campagna che pare asfalto. Al posto delle fragole una donna slava si sbuccia le ginocchia e si ridà lo smalto. Al posto delle fragole, fragole e sangue dentro al cilindro di una siringa. Al posto delle fragole troppe ghirlande e il pianto assurdo di una casalinga. Nel posto delle fragole mio nonno andava e con mia nonna si addormentava. Nel posto delle fragole ci andava zia, che non si addormentava per la compagnia.
Thank you.
Voilà, vous êtes bien sur 97.1, cet indicatif, vous commencez à le connaître.
Il celui lance, de Couleur FM.
De Couleur FM, bien sûr, et l'indicatif vous signale qu'on va vous passer des interviews, des extraits d'interviews, suite au travail de collectage qu'on a fait pour, depuis des années, qui concerne l'immigration italienne dans le Nord-Isère. Alors cet extrait, c'est un des plus récents, Serge, puisque
oui,
tu l'as fait il y a quelques jours. Hier, voilà. Bien, ben, je te laisse avec l'interviewé.
Alors, on va... jusqu'à présent, j'avais reclassé les thèmes de ce que nous avaient raconté les personnes qu'on avait... enregistré pour faire ces émissions. Donc on avait fait une émission sur le logement, sur la naturalisation, sur la langue parlée. Donc là, l'interview de monsieur Loupi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, qui habite à Brangues, vers Morestel, n'a pas pu s'insérer bien sûr dans ce contexte. Et puis, en fin de compte, je regrette pas du tout, parce que je pense que ça aurait été malheureux de la couper. Donc, on va parler aujourd'hui de son départ d'Italie et puis de son arrivée en France. Et on verra le mois prochain la suite de cette séquence immigration de M. Loupi. Alors, M. Loupi a actuellement 91 ans et il était d'une petite ville au nord de Modène qui s'appelle Mirandola. Et Modène, donc, c'est dans l'Émilie-Romagne. Et c'est une région qui était, à l'époque, jusque dans les années 80, à fort représentation du Parti communiste et dans toutes les villes.
Avec des fêtes.
Avec les fêtes de l'UNITA.
Monstrueuse au niveau du nombre de spectateurs présents, enfin de participants. C'est énorme.
Je crois que Bologne a eu une seule municipalité de droite dans les débuts des années 2000, mais oui, un seul mandat.
Une erreur. Et Bologne a longtemps été une ville où tous les transports étaient gratuits.
Ah oui. Donc l'immigration de M. Loupi est un peu particulière, non pas due au hasard, mais parce que c'est quelqu'un qui fait une analyse froide de la situation, qui prend une décision assez rapidement, qui est volontaire, et puis aussi, il faut le dire, qui a eu de la chance. Donc le premier extrait qu'on va entendre, ça concerne la décision de partir. Et c'est quelque chose, en fin de compte, d'assez simple à entendre Monsieur Loupi. Donc on va l'entendre qui nous parle de la décision de partir.
Je suis né en 1926, le 13-12-1926, et je suis d'une famille pauvre. C'est pas la peine d'aller chercher les mots. Mon père et ma mère, bon, ils sont des travailleurs de la terre. Moi, je suis arrivé juste à la sixième, à l'école. Et puis, mes parents m'ont dit, stop, maintenant, il faut que tu arrives à apporter un peu d'argent à la maison. Or, à 14 ans, je suis rentré à l'usine. Je suis rentré dans une usine qu'on faisait les charroux pour labourer la terre. Et là-dedans, avec l'interruption de la guerre qui est passée en 1940, je suis resté jusqu'à 30 ans. À 30 ans, les conditions de vie d'un travailleur italien, c'était... très misérable, car il y avait des choses que peut-être les patrons ils avaient compris et que nous, les ouvriers, on n'avait pas compris, qu'à la sortie de la guerre, tout le monde s'arrêtait de chercher le meilleur. Voilà, le patron il avait besoin de chercher le meilleur pour construire. Nous, on avait besoin de gagner un salaire potable pour nourrir notre famille, qu'on n'y est jamais arrivé. Alors, bonjour, j'avais déjà, j'étais marié avec Bulgarelli Anna, une fille de mon pays. Et avec elle, on a créé notre famille. On a eu 2 enfants. On a eu le premier, c'était Lorenzo Luppi, et le deuxième, Lucia Luppi. Et ces 2 enfants-là, d'après les sentiments d'un chef de famille, ça m'a poussé à prendre des décisions parce que je voyais que j'y arrivais pas, ni d'un côté ni de l'autre. Un bon jour, il y a un gars qui travaillait avec moi à l'entreprise. Où je travaillais moi à l'entreprise. Alors, je ne le dis pas l'entreprise, le nom d'entreprise, je ne vous le dis pas. Et alors, il m'a dit, parce que moi je l'avais invité, il est venu chez moi, et il m'a dit, Lucien, je vois que tu as des contraintes, tu as des soucis, quoi. Je vois de la façon, même dans la conversation que tu avais avec Anna, avec ta femme. Elle dit oui, oui, on était en train de parler, comme ça se fait qu'on n'y arrivait pas. Et alors elle dit, écoute, moi ça fait déjà un an que je suis en France, et je suis à Lyon. Si tu veux venir en France, moi je te fais avoir un contrat. Mais attends, il arrive tout de suite, t'attends pas que ce soit un mois ou 3 mois après. Hein. Alors on s'est regardé, ma femme et moi, et on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors il m'a répondu, sec, dit, je te laisse la permission d'aller en France à une seule condition, que tu viennes nous chercher. Une fois que tu as trouvé le travail, que tu viennes nous chercher. Eh bien, j'ai fait la promesse à ma femme, sois tranquille, dès que je suis installé, que j'ai commencé à travailler en France, eh bien, je viendrai à te chercher.
Voilà, avec Monsieur Loupi.
C'est impressionnant comme rapidité de décision.
Avec Monsieur Loupi, tout est simple. Il y a un problème, on prend une décision et on l'applique.
Ce qui est incroyable. D'ailleurs, pour l'avoir rencontré il y a quelques mois, c'est une personne, mais à la voix,
Est vive.
Est vive, mais le personnage est étonnant, mais vraiment étonnant. C'est un monsieur à qui on donnerait facilement 20 ans de moins, pratiquement.
Oui, et ce que je peux vous dire, c'est que le début de l'interview, je ne l'avais pas très bien lancé. J'avais oublié de lui demander quand est-ce qu'il était né, tout ça. Il m'a dit, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire.
Ah oui, oui, non, mais il est très organisateur en plus. Alors, ce qui est, vu l'époque auquel il est à laquelle il est parti.
Il est arrivé en 56.
Voilà, hein. Et 3 ou 4 ans après, c'était plutôt une époque de vache grasse en Italie. Quoi. C'est vraiment une décision qui est arrivée et qui précédait de très peu une période beaucoup plus faste. Quoi. Mais c'est étonnant. Et se décider aussi rapidement, impressionnant.
Donc après, M. Loupi est allé, donc il a reçu son contrat, il est allé au bureau d'immigration.
Le contrat, il arrive. C'est un contrat qui avait un honoraire à la quinzaine, ici en France. À la quinzaine, c'était supérieur au mois que je gagnais en France, en Italie.
2 fois plus, quoi.
2 fois plus. Alors, évidemment, le contrat arrive. Je le lis, je le signe, je l'envoie. 15 jours après, je reçois la réponse et me dit, monsieur, vous êtes attendu le lundi. C'est un lundi du mois d'avril, un lundi du mois d'avril de 1956. Bon, je regarde. Et le lundi, il fallait être sur place. Alors, moi, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien.
Bien sûr.
Alors, je vais au bureau de migration de chez nous, à la Provence, à Modena, et je lui fais voir le contrat. Mais tu nous abandonnes comme ça, le dirigeant. Tu nous abandonnes, tu abandonnes l'Italie par la France. Bon, allez, je vais voir. Je n'ai pas dit oui, non, quoi. Et je vais voir ce qui se passe. Et le bureau d'immigration italien, il prend, oui, d'accord, il prend contact et il me dit, bon, vous êtes déjà engagé en France. Quelque chose qui, pour moi, c'était hors de mes pensées. Bon, ça va. Alors, il y a le billet de départ qui arrive, et je devais être ici un jour, un dimanche d'avril, je crois que c'était au moitié avril, quoi. J'arrive, alors je prépare mon balison.
Vous êtes venu en train.
Voilà. Je prépare ma petite valise, et puis voilà, je prends mon train et j'arrive au bureau d'immigration centrale à Milan.
Alors, on a vu dans certaines interviews que des gens sont restés 3 semaines à Milan, le temps de... Parce qu'ils sont partis sans contrat, sans rien, quoi. Donc, ils sont restés 3 semaines parqués dans un gymnase, le temps que l'administration vérifie que les papiers soient faits, etc. Non, M. Loupis, c'est différent. Lui, il avait son contrat et il est parti. Alors après, donc il a eu un peu de chance quand même. Il y a beaucoup de déterminisme, mais un peu de chance.
Je suis sur le quai de la gare et je vois une valise là. Signora Niccoli, Lione. Alors, pour un petit Italien qui n'a jamais mis le nez en dehors de sa mirandola, je m'approche, je l'interroge, je lui demande. Je dis, mais est-ce que vous allez à Lyon, madame? Elle dit, si. Alors je dis, est-ce que vous permettez que je fasse le voyage avec vous? Dio mio, come posso dire? Guardate la gente che c'è. Se trovo un porto, allora j'avais 30 ans all'epoca, a dit la place je vous la trouve, moi madame. Allora, come un jeune de 30 ans, je en prends la fenêtre du wagon et je rentre dedans et j'ai trouvé tout de suite la place pour 2 personnes. J'y mets ma veste, je mets. Puis je lui fais signe, madame, venez par là, oui. Alors, passez-moi la valise. Alors la pauvre, il s'est fait aider. Parce que moi j'avais 30 ans, elle en avait 60. Il s'est fait aider, on se fait notre place, quoi. Et quand on était assis, en faisant le voyage pour arriver à Lyon, alors les autres, ils étaient déjà montés dans le train. Alors Lucien, tu sais où on va, tu sais, moi je suis à Chambéry, l'autre dit, moi je suis à Grenoble, moi je vais plus loin, je vais à Lyon. Alors, questa signora m'ha detto, date il foglio di consegna a quei ragazzi lì, voi prendete il foglio che vi interessa e voi restate qui con me. Bon, j'ai dit, ça va, j'étais content, j'étais fier. Alors, bien entendu, on arrive à Modane, quand on est à Modane, il y a la douane et il y a les gars de wagon. Alors, il m'a dit, bougez pas de là, vous restez à côté de moi. Donc, il vient dans le wagon, il vient tout, alors elle, il présente son billet, moi, je présente ma carte, que c'est elle qui l'avait, qui l'a donnée. E lui dice, viaggia con voi questo signore? Dice, sì, viaggia con me. Bon, dans la conversation, on arrive alla gare de Bruto, durante il viaggio, e alla gare de Bruto, il mi dice, adesso lei scende.
Voilà, donc on va dire quelques mots de cette Madame Nicoli est quelqu'un qui l'a pris sous son aile protectrice, probablement qu'elle a vu quelqu'un de volontaire, mais son mari travaillait à l'usine où il allait. Ouais. Donc plutôt que de laisser le laisser descendre à Perrache, elle lui a dit de descendre au Brotteau parce que c'était plus près.
Oui, et puis au contrôle douanier.
Et au contrôle douanier. Donc
oui, il voyage avec moi,
etc. Et c'est une dame qui a eu beaucoup d'importance pour lui après.
Il raconte remarquablement bien. Alors, Monsieur Loup, il y a des Émilie Romagne. Alors, l'Émilie Romagne est beaucoup connue déjà à l'époque, mais bien sûr, mais même encore maintenant, pour son balloliche, hein, c'est-à-dire ses danses populaires, les valses. Et on va écouter un groupe qui s'appelle Bevano Est. Alors Bevano Est, c'est le nom d'une sortie d'autoroute, pas loin de Bologne d'ailleurs. Ah oui. Et ce groupe, donc on va l'entendre dans un morceau qui s'appelle Wazzeranda, qui est une valse en fait, pour hommage à Monsieur Loupi.
Monsieur Loupi, c'était pas un enfant né de la dernière pluie quand il est parti, parce qu'il a eu un passé de résistance en Italie. Donc la résistance en Italie, c'était du 9 septembre 43 à avril 45. Donc, et après son passé de résistance, il a été syndicaliste, donc représentant la CGIL,
CGT
italienne. Donc il avait un certain bagage, quoi. Alors, donc, le voyage, pour l'instant, n'a pas été trop, trop mauvais. Il était assis alors que ses copains devaient être debout, entassés dans le couloir. Mais il arrive à 10h du soir au Brotteau, donc en avril, il faisait nuit. Et on va l'écouter maintenant nous raconter la suite du voyage.
Moi, je dois aller à Rue Antoine Primat, à tel endroit. à la telle usine, mais comment se faire à trouver? Vous prendrez un taxi, vous lui donnez l'adresse que vous avez sur la feuille, et vous mène là. Madame, je partout dans la poche, moi, je partout. J'ai quelques monnaies en italien, mais en français, j'ai rien. À l'époque, on me donne un billet de 1000 francs. Ah oui, en jeton. C'était pas 1000 francs. Ou c'était un franc. Il valait bien des sous, un franc. Alors, pour moi, un franc, à l'époque, c'était énorme. Madame, celle-ci, il me prend son machin, et quand je suis là-bas, si il ne me rend pas la monnaie. Ça, le souci italien. Mais restez tranquille. Lui, il vous mène et il vous donne le reste en arrière. Et moi, je vous donne quelque chose. Bon, et qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne l'adresse où il habite. Parce qu'il m'a dit, dans le cas que vous ne trouvez pas bien dans le dortoir qu'ils vous ont préparé, parce qu'elle le savait. Et son mari, il était un retraité où je devais aller, dans l'usine.
Ah, d'accord.
Voilà, c'était pas ça qu'il savait, ce qu'il disait. Et il me donne l'adresse. Et moi, c'était 10 heures du soir, je me souviens comme maintenant, je me présente devant le portail de l'usine. Je sonne, personne. Parce que moi, j'avais déjà des copains qui m'attendaient. Et à la place de m'attendre là, ils sont allés à m'attendre au bureau d'immigration.
Au bureau d'immigration.
Voilà, au bureau à Perras. Bon, bref. Et il y a une femme qui dit, mais qui c'est? Là, il y a le portail, et à côté, il y a une maison. Une femme qui vient et dit, qu'est-ce que c'est? Alors je dis, sono un lavoratore qui vient dall'Italia, qui vient à lavorare qui. Bene, alors aspettate, vengo a aprirvi la porta.
Mais elle a répondu en français ou en italien?
Non, la signora parlava in italiano.
Ok.
Lei era francese, ma suo marito era italiano.
Ok.
Voilà, c'était les concierges. Quoi. Viens m'ouvrir, voilà. Il dormitorio là-dessous, prendre la scala et puis voilà, j'arrive là-haut, les lits, ils étaient déjà faits, les copains, ils avaient fait tout pour me recevoir. Alors bon, voilà, je vois, il y avait marqué un papillon comme ça, Luciano Luppi. A dit alors, celle-ci, c'est mon lit.
Voilà.
Et j'ai commencé.
Voilà, donc quand j'étais avec M. Loupi qui m'a raconté ça, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à une dame qui est allée à Nevers avec son père, ses deux enfants en bas âge, qui est arrivée à Nevers le soir. Bon, heureusement, elle a trouvé un taxi qui l'a emmené. Le gars, il ne savait pas s'il allait être payé. Enfin, il a été payé, mais il ne savait pas au départ. Les copains du mari n'étaient pas là.
Mais les circonstances arrivant même, bien aidées par cette dame, mais arrivant...
Oui, mais elle a dû voir à qui elle avait affaire.
Oui, parce bien que... sûr. Mais arriver au bâtiment en question,
en taxi.
Un dortoir, en taxi, et à l'entrée être reçu en italien par la femme du concierge qui était italien lui-même, c'est assez extraordinaire.
Alors, Monsieur Loupi... il était arrivé en France et je lui ai demandé après ses premières impressions et il a fait une analyse de la question avant d'y répondre.
Ça ne pouvait pas avoir une impression. L'impression, je l'ai vu le matin. Mais le soir,
oui,
le matin.
Oui.
Mais le matin, je suis arrivé. Je voyais une ville toute noire. Noire. Hein? Mais c'est après que j'ai su pourquoi ils étaient comme ça. Les murs. Mmh. Voilà. Parce qu'on chauffait avec le charbon.
Avec le charbon, oui.
Voilà. Ça, c'est la première impression. Et la deuxième impression, c'était que je voyais les choses tellement grandes déjà chez nous, c'était tout un petit. Mon patron, c'était un petit patron. Mais là, quand ils m'ont dit, ça, c'est le patron de tout ça. Je savais qu'en Italie, on avait des grandes entreprises, on avait Fiat, qui avait 500 ouvriers et passe. Mais à part de là, oui, je savais quelque chose de mon Italie à moi. Mais la France, je ne connaissais rien, vraiment. Et la première impression, c'était le contact au matin avec le signor Giovanni, le chauffeur personnel de M. Chiandra.
Donc c'était un Marcel, Italien qui
Marcel
avait
Chiandra.
Aussi.
C'est lui qui avait l'ordre de recevoir le personnel qui venait d'Italie, les amener au bureau central à Rue de la République à Lyon, et là, il nous prenait toutes nos généralités, comme on venait pas, un chose ou l'autre. Et, j'ai oublié de vous dire, au bureau de migration à Milan, le grand patron qui nous a reçus, ceux qui l'ont dit, bon, je vous donne le, à ceux qui ont le sang bon, je donne la vie. Avant de dire ça, alors vous êtes le signor Lupi? Si. Alors, siete comunista? Je dis non. Siete syndicaliste? Si. Pensate di fare della politica in Francia? No. E vous venez in Francia per fare che cosa? Per lavorare. Bon. Mais tout de suite...
Le ça... décor était planté. Là.
Voilà, voilà. À quoi s'en tenir?
Voilà, alors Monsieur Lupi, il a
tout
dit...
Un petit peu menti.
Il a dit qu'il était arrivé donc le dimanche à Milan et qu'il devait se présenter le lundi à l'entreprise. Et le bureau d'immigration à Milan faisait des prises de sang.
Ouais, comme il avait le sang. Bon.
Donc comme il était donneur de sang, il avait sa carte, il est passé. Ouais. Donc il y a un mélange de...
Et puis on lui a quand même posé la question, est-ce que vous êtes communiste? Non. Est-ce que vous êtes syndicaliste? Oui. Est-ce que vous allez faire de la politique en France? Non, je vais pour travailler.
Mais il a tenu ça après.
Il a tenu, mais enfin tenu le fait de dire qu'il n'était pas communiste, j'en suis un peu moins sûr. Mais... Non, mais
donc c'est voilà en quoi le début de l'immigration de M. Lupi est un peu atypique. Prise sous son aile par une personne, le taxi,
Après, pour aller au bureau central de l'entreprise.
Le chauffeur, on peut imaginer l'attraction, peut-être la déesse, je sais pas.
Le chauffeur est italien, le chef d'entreprise s'appelait Chiandra, voilà. Qui est un nom italien aussi d'ailleurs. Non, mais c'est.
Voilà l'arrivée de Monsieur Lupi. Donc le mois prochain, on
attend avec impatience. On attend avec impatience. Bon, on va toujours, Monsieur Lupi, qui est un chanteur extraordinaire, entre parenthèses, on va lui dédier cette chanson qui est chantée toujours par le groupe Bevano Est et qui est Musica, tout simplement, une gloire à la musique.
Il verso discanta, informa e reincarna il verbo che ora. Ora che adesso è bastarda, ma sana e gagliarda, e domani c'è musica. Tutta la musica che c'è in questa vecchia nenia, tutta fatta per te, che no, non mi lasci venia. Le storie, tirare le corde, gettarsi in salita, scendere senza rimorsi per altri percorsi, e comunque musica, tutta la musica che c'è in questa grande vita, tutta agognata per te, che stanotte non ti sei stupita. Di ghiaia si lagna sai poco della sua ferita, tutto l'odore che c'è in questa semplice musica, tutta amara per te che soffri la mia musica.
Donc Monsieur Loupi est arrivé en France et est installé, et le mois prochain, eh bien, on écoutera la suite de la séquence immigration de Monsieur Loupi.
Voilà, et le morceau que l'on a entendu était donc Musica par Bevan Oest. Et à la voix, Stefano Del Vecchio. Voilà, alors on va brièvement vous rappeler le Festival Estrade, parce que lorsque cette émission va être diffusée, et une partie de la rediffusion sera en plein dans le festival, l'autre il sera à peine terminé. Mais donc,
l'écoute sur Internet.
Voilà, tout à fait. Mais ce festival.
C'est sur le site de Couleur FM.
97.1 pour l'onde, et puis le site Couleur FM, tout simple, où vous pouvez entendre toutes les émissions de cette radio. Donc ce Festival Estrade, je rappelle, des soirées-concerts, des ateliers au conservatoire de Bourgoin-Jallieu-Estrade, CAPI, Hector Berlioz. Parallèlement, un salon Transalpes BD organisé par l'association Alpes BD. Et pour les concerts du soir, une exposition aussi de peinture de Monique Després à Saint-Marcel Bel Accueil. Pour les concerts du soir, premier soir, jeudi 13 octobre, 20h à Saint-Marcel Bel Accueil, la famille Borne, une famille nord-iséroise, et la famille Boniface, qui est une famille de la Vallée d'Ost, région bilingue. Le bilinguisme va jusque dans les prénoms, puisque les parents s'appellent Alessandro et Liliana, et les enfants Vincent et Rémi. Vincent, qu'on appelle Venzo d'ailleurs là-bas. Et ensuite, le 14 octobre, des chants populaires des Dolomites avec Erika Boschiero, Paolo Cossi qui illustrera les chansons d'Erika et Sergio Marchesini. Donc là, c'est à Bourgoin à 20h le 14 octobre, salle polyvalente. Rhapsody 4 en deuxième partie avec Henri Maquet, Géraldine Lopez, Elsa Hill et Hélène Manteau qui nous feront des chants de la remontée du Rhône en fait, qui vont de Arles jusqu'à Lyon. Et les deux concerts de la dernière soirée, le samedi 15 octobre à 20h, toujours à la salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu. Le concert de Marlowe et compagnie, de Filles de Gars, qui Marion Soulette, Laurence Dupré, Jean-Louis Sacchettini et Eric Barnot, qui vont nous faire des chansons et des musiques du Berry et d'Auvergne. Et ensuite, le concert Oltremare par le très beau groupe Arsenal, et qui va faire sa première européenne ici. et qui est constitué de musiciens provenant de quatre groupes, le groupe Calicante d'Italie, le groupe Ruja d'Istrie et Slovénie, le groupe Istrad Marušić de Croatie et le groupe Oligon de Grèce. Il nous propose un parcours qui va de Venise jusqu'à la Crète. Et il y aura aussi en invité d'honneur Gianni Esposito, Flavia Ferretti et Michele Cavazzini du groupe de danse et de chant Festa Continua. Vous pouvez, pour tous ces concerts, salons, ateliers, vous adresser à Inis et évidemment pour obtenir des billets. Alors il y a plusieurs formules, il y a des billets d'entrée par soirée, il y a des passes deux soirées, des passes trois soirées, les enfants de moins de 16 ans évidemment ne payent pas. Et par soirée, il y a même des prix groupe à partir de 10 personnes. Donc tout ça, vous pouvez en avoir les renseignements au 07 86 62 29 77. Autrement, vous pouvez écrire aussi à inis@alissadsl.fr ou aller tout simplement sur le site Italie Norisère qui vous renverra au site du festival qui s'appelle Estrade, tout simplement. Estrade, trait d'union festival.com où vous aurez là une billetterie en ligne. Voilà, on va se quitter sur un morceau que vous entendrez notamment dans la dernière soirée de ce festival qui s'appelle Grecesca. Et Grecesca qui est interprété ici par le groupe Calicanto qui a été fondé il y a 35 ans par Roberto et Giancarlo Tombesi qui seront au festival. Et si on va sur leur site en Italie, ils annoncent que ce festival sera l'occasion de fêter leurs 35 ans de carrière. On espère que vous serez nombreux parce que ce festival en est à sa deuxième édition et on compte bien qu'il se pérennisera dans le Nord-Isère. On change chaque fois de lieu de spectacle parce que le Nord-Isère mérite un festival international que l'on estime de qualité. Voilà, merci Serge, merci Laurent.
Au revoir.
Et on se quitte sur Grecesca et à la prochaine émission.
Tocco di gnocca, a chi che tocca, pure in burata, ciava nannai. Mastro d'un can, mori doman, ostrega, massa, frega nannai. Anemo stesta, la se, sboro, scirocco, pana nannai. Ora i testa, la se, fane, fortuna, saca nannai. Anemo stesta, la se, sboro, scirocco, pana nannai. Ostrega massa brusa nannai. Anemo stesta la se, sporo sirocco pana nannai. Ora i testa la se, pane fortuna taca nannai. Anemo stesta la se, sporo sirocco pana nannai. Ora i testa la se, pane fortuna taca nannai. Thank you.
à l'écoute de l'Italie, une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord-Isère.
Animé par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.